France Culture. Et le journal est présenté par Julie Paco. Bonsoir.
Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous. Des libérations et une guerre de communication. Trois otages israéliens détenus dans la bande de Gaza ont été libérés ce matin par les combattants cagoulés et armés du Hamas lors de cérémonies savamment orchestrées dans la bande de Gaza. En échange, plus de 180 prisonniers palestiniens ont été relâchés par Israël dans des conditions qui posent question. Parmi les otages israéliens libérés figurent Yarden Bibas, enlevé avec sa femme et ses deux enfants le 7 octobre 2023. Or, le sort de sa famille, toujours captive, reste encore incertain. Canada et Mexique dans l'expectative après l'annonce de Donald Trump sur les droits de douane qu'il souhaite imposer à ses deux voisins. Le président américain promet une imposition de 25% sur plusieurs produits et les décrets devraient être signés dans la journée. L'insecticide tueur d'abeilles va-t-il être de nouveau autorisé? C'est ce que prévoit une proposition de loi votée par les sénateurs lundi dernier et qui suscite la colère des apiculteurs qui se sont rassemblés au Puy-en-Velay aujourd'hui. Ils sont arrivés à bord de trois bus à Ran Younes, dans le sud de la bande de Gaza à la mi-journée. 150 détenus palestiniens ont été libérés par Israël en échange de trois otages israéliens, des hommes portant le survêtement gris des détenus accueillis par la foule en liesse. Après une libération dont les conditions sont dénoncées par des employés du comité international de la Croix-Rouge, Thibault Lefebvre.
Dans un communiqué officiel, l'organisation rappelle aux belligérants qu'ils doivent faire preuve de dignité et assurer la sécurité des otages et des détenus lors des échanges. Les prisonniers palestiniens sont sortis tout à l'heure à la mi-journée du centre pénitentiaire de Ksiot, c'est dans le désert du Negev, et les conditions de leur libération posent de sérieuses questions. Ils étaient menottés, les mains derrière la tête, et portaient un bracelet sur lequel était écrit « Le peuple éternel, Israël donc, n'oublie pas et pourchassera à son ennemi. Rien de surprenant pour Saher Shrité, il est membre de la commission des affaires des détenus palestiniens.
Ils sont en mauvaise santé, ils ont été battus, humiliés, ils ont subi des actes de torture, surtout durant les derniers jours. Pour les forces d'occupation israéliennes, la libération de ces détenus est un aveu d'échec, car certains d'entre eux étaient condamnés à de longues peines, voire à la perpétuité.
Le porte-parole du service pénitentiaire israélien assume et il précise que jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce qu'ils quittent le sol de l'État hébreu, les ennemis d'Israël, ce sont ces mots, seront traités comme dans une prison. 183 détenus palestiniens ont été libérés aujourd'hui. Parmi eux, 111 ont été arrêtés à Gaza juste après le 7 octobre 2023, enfermés sans jugement et sans charges avérées retenues contre eux.
Thibault Lefebvre depuis Jérusalem pour France Culture. Tandis qu'à Tel Aviv, de nombreux Israéliens se sont rassemblés plus tôt ce matin pour suivre la libération de trois otages. Le franco-israélien Ofer Calderon, l'israélo-américain Cass Siegel ainsi que l'israélien Yarden Bibas qui ont été remis à l'armée israélienne avant d'être transportés à l'hôpital. Leur libération ont eu lieu lors de cérémonies mises en scène par le Hamas dont les combattants cagoulés et armés ont été déployés en nombre. Mais à la joie des Israéliens se mêle aussi l'angoisse pour la famille de l'un des otages libérés. Yarden Bibas, sa femme et ses deux enfants ont également été enlevés par le Hamas qui affirme que ces derniers sont morts dans un bombardement israélien. Une situation éprouvante, suivie de très près par toutes les familles d'otages et en particulier par le père de la petite Emily Hand, 10 ans aujourd'hui. La petite fille avait été enlevée par le Hamas le 7 octobre 2023 dans le kibboutz de Berry avant d'être relâchée 50 jours plus tard. Tom Hand se bat aujourd'hui pour lui retrouver un semblant de normalité, Virginie Pironon.
Comme les trois quarts du millier d'habitants du kibboutz de Be'eri, ravagé le 7 octobre, Tom Hand et sa fille sont désormais logés dans des préfabriqués à Atzerim, un autre village communautaire en plein désert du Negev. C'est ici qu'Emily, qui ne s'exprime plus devant les journalistes, tente de retrouver sa vie d'avant.
Vous voyez ces petites joues potelées de petites filles de 8 ans, terminées. Elle ne les aura plus jamais.
Une petite fille donnée pour morte par le Hamas alors qu'il n'en était rien. À chaque nouvelle libération, son père, qui a perdu sa compagne, la belle-mère d'Emily le 7 octobre, a le sentiment de revivre ces journées de cauchemar.
C'est comme un retour en arrière. Ça nous rappelle exactement ce que nous avons vécu et ce que ses parents traversent.
Les otages libérés auront trois vies, dit cet Irlandais, celle d'avant, pendant et après.
Ce qu'on essaie de faire, c'est de reconnecter la nouvelle vie d'Emily à celle d'avant. C'est comme un pont qu'on enjambe. On essaie d'ignorer ce qui s'est passé entre les deux. Ce sont les psychiatres qui se chargent de ce qu'il y a au milieu.
Sur les murs de la maison, des ballons multicolores qui datent du mois de novembre, quand Emily a fêté ses 10 ans. Un anniversaire gigantesque.
Yeah, really big.
La petite fille, dit son père, veut désormais garder une trace de chaque moment heureux.
Un reportage de Virginie Pironon. Égypte, Jordanie, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Qatar. En tout, 5 pays arabes rejettent tout déplacement forcé de Palestiniens. Déclaration commune faite lors d'une réunion de leur ministre des Affaires étrangères au Caire aujourd'hui, où a été abordée l'idée évoquée par Donald Trump de transférer les Palestiniens de la bande de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie. Une idée donc rejetée en bloc par ces 5 puissances régionales qui disent aussi vouloir travailler avec le président Trump pour une solution à 2 États afin de résoudre le conflit israélo-palestinien. Donald Trump, qui après les menaces devrait signer plusieurs décrets dans les prochaines heures pour imposer des droits douaniers de 25% aux marchandises en provenance du Mexique et du Canada. Le président américain dégaine donc l'arme commerciale face à ses voisins qu'il accuse notamment de ne pas suffisamment lutter contre le trafic de fentanyl, un puissant opioïde. Pour l'heure, on ne connaît pas les modalités de ces nouvelles taxations ni quels produits seront concernés. Donald Trump ayant cité l'aluminium, le cuivre ou encore l'acier exporté par le Canada. Où Pascal Guéricola, les entreprises s'interrogent sur leur avenir.
C'est énorme. Notre marché est à 93% aux États-Unis.
Nicolas Blé, le propriétaire de Boss Atlas, regarde un de ses ouvriers souder une des poutres d'acier destinées au marché américain à une heure de là. Dernièrement, il a accéléré la cadence de production pour les expédier dans des entrepôts aux États-Unis.
Malheureusement, on n'a pas été capable d'envoyer tout ce qu'on voulait, mais on sait que tout ce qu'on a envoyé avant minuit, bien, ultimement, on n'aura pas de tarif là-dessus.
L'entrepreneur mise sur la fidélité d'une partie de ses clients pour surmonter la crise.
On a quand même un produit qui est très abordable à cause du taux de change. On a une proximité aussi avec eux depuis 15 ans, 20 ans qu'on est là. S'il y a des tarifs cette nuit ou demain ou après-demain, bien, ils sont prêts à assumer les tarifs. Mais il y a tout de même un 50% de risque avec les autres clients qui ne veulent pas payer ces tarifs-là. Mais ultimement, on est confiant que ça va être un 3 à 6 mois, peut-être 9 mois. On ne pense pas que ça va s'éterniser.
D'autres entreprises ont choisi de délocaliser une partie de leur production aux États-Unis. Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, lui, annonce ses couleurs.
Nous allons aussi réagir. Notre réponse est prête, une réponse déterminée, énergique, mais raisonnable et immédiate.
Une guerre commerciale s'amorce donc entre deux alliés, pourtant de longue date.
Pascal Guéricola, correspondante au Canada pour France Culture. Quant aux droits de douane sur le gaz et le pétrole canadien, eh bien le président Trump dit vouloir les limiter à 10%. Ils seront appliqués vers la mi-février. Un mur de ruche devant la permanence du sénateur LR Laurent Duplomb au Puy-en-Velay. Action menée par des apiculteurs aujourd'hui pour dénoncer l'adoption par le Sénat cette semaine d'une proposition de loi ouvrant la voie à la réintroduction de 3 néonicotinoïdes interdits en France en 2018, mais toujours autorisés dans l'Union européenne, parmi lesquels l'acétamipride, surnommé l'insecticide tueur d'abeilles, utilisé notamment sur la betterave ou la noisette. Il pourrait donc être de nouveau autorisé par décret à titre dérogatoire et sous certaines conditions, ce que saluent la FNSEA et le syndicat Jeunes Agriculteurs, là où la Confédération Paysanne y voit un retour en arrière mortifère. Louise Thomann.
On ne voit plus la permanence parlementaire de Laurent Duplomb, cachée derrière une immense pile de ruches et cette pancarte, les abeilles ont Duplomb dans l'aile. Jean-Philippe, apiculteur de Sauvé-Sange, à la limite entre le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire, vient exprimer son ras-le-bol.
On avait le varroa qu'on arrivait à peu près à gérer. C'est l'acarien qui détruit le corps des abeilles. Maintenant, on a le frelon asiatique. Notre ami Duplomb vient encore d'en remettre une couche autorisée exceptionnellement d'autres pesticides. Donc, on s'en sort pas, quoi.
3 insecticides interdits en France pourraient à nouveau être utilisés si la loi passait. Ce qui révolte Isabelle Couder, la présidente des apiculteurs de Haute-Loire.
C'est un retour en arrière. On sait que tous ces produits sont très mauvais pour la santé, très mauvais pour nos abeilles. On fait un pas en avant, 10 pas en arrière.
Entre l'apicultrice et le sénateur, 2 visions de l'agriculture s'opposent.
Ils ne pensent qu'à la filière agricole et il faudrait certainement produire moins, mais produire mieux.
Laurent Duplomb, lui, défend son texte, s'appuyant sur les travaux de l'Agence de sécurité alimentaire européenne pour défendre l'un des néonicotinoïdes qu'il veut réinstaurer en France. Il n'a rien d'un tueur d'abeilles, martèle-t-il. Mais la proposition de loi mentionne 3 insecticides, dont l'un présente un risque élevé pour les abeilles, selon la la même agence.
Louise Thomann, ici Saint-Étienne-Loire. Un dispositif de reconnaissance d'état de catastrophe naturelle accéléré pour une vingtaine de communes de l'ouest de la France. C'est ce que promet le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau en déplacement à Redon aujourd'hui, où la décrue de la Vilaine s'annonce lente. Le pic étant passé, les départements d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et de la Loire-Atlantique sont redescendus en vigilance orange. Le temps demain sera ensoleillé. Après dissipation des brouillards givrants présents en matinée sur la façade ouest, la plaine d'Alsace et le Val de Saône. Les nuages bas sont attendus au réveil sur le sud-ouest et quelques ondées sont possibles sur le littoral du Var et les Bouches-du-Rhône. Les températures sont en baisse, comptées à moins 1 à moins 6 sur la plupart des régions. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Beneteau, Jean-Guy Lamège à la technique.